Alors j'ai intitulé ce message, le message de ce matin, « Dans la main du potier ». Dans la main du potier. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, au chapitre 18. Si vous voulez bien le prendre avec moi. Jérémie, chapitre 18. Et nous lirons les 12 premiers versets. Jérémie 18, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voix. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchés de notre mauvais cœur. Ce dernier verset est terrifiant. Vous êtes d'accord avec moi ? Le Seigneur me parle et je lui dis non. C'est terrible. J'en ai la chair de poule. Un peu plus tard, nous lirons dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, quelques versets qui confirment cette grande vérité qui est là dans ce chapitre 18 de Jérémie. Alors ce matin, imaginez que Dieu vous conduit dans une maison, comme il le fait avec Jérémie. Ce n'est ni un palais, ni un temple, ni un lieu qui impressionne les hommes, mais il vous conduit dans la maison d'un potier. C'est un... dans un endroit, dans un atelier simple, ordinaire, humble. Un peu, ça fait penser peut-être à la crèche où Jésus est né, ou l'étable où Jésus est né. Il vous conduit là, et Dieu va faire là entendre une parole qui va déranger, qui humilie même. Mais aussi une parole, c'est ça qui est étonnant, qui guérit, qui relève, qui restaure, qui redonne de l'espérance. Et parce que dans ce texte, il n'est pas question seulement d'un vase, ce serait trop simple et enfantin. Hein. Parce qu'il est question d'un vase, c'est vrai. il est question de nous. Il est question de moi et il est question de vous. Et il est question de mon cœur, de votre cœur. Il est question de l'Église. Parce que ce texte est plus actuel que jamais. Il est question de ce que Dieu fait quand son peuple, ses enfants, deviennent religieux. Lorsque son peuple n'est plus consacré, c'est-à-dire qu'il ne s'abandonne plus entre ses mains alors qu'il devrait le faire. Il ne s'abandonne plus dans la main du potier comme il devrait le faire. Alors, là, dans ce chapitre, Dieu parle. Et pour, je crois, pour bien comprendre ce passage de Jérémie 18, j'aimerais rappeler qu'il s'inscrit en fait dans une grande logique de tout le livre de Jérémie. Et ça, nous l'avions vu ensemble au moins à deux reprises les fois précédentes. Cette grande logique, cette grande vérité, eh bien, elle est annoncée dans le premier chapitre, dès le verset 10, parce que Dieu dit à Jérémie ceci: « Je t'établis aujourd'hui pour arracher et pour abattre, pour ruiner et pour détruire, mais aussi pour bâtir et pour planter. » Et nous retrouvons exactement dans ce chapitre la même logique et même dans d'autres passages qui précèdent ce chapitre 18 et des passages qui se trouvent après le chapitre 18. Tout le livre de Jérémie en est imprégné. C'est la clé de lecture du livre tout entier de Jérémie. Et je pense que ça facilite la lecture d'un livre qui est difficile à lire. Et ça nous ouvre la compréhension de ce livre extraordinaire. Vous savez que Dieu, en réalité, n'arrache jamais pour le plaisir d'arracher. Il ne renverse jamais pour renverser, mais pour reconstruire. Et lorsqu'il déracine, c'est pour quoi faire ? Replanter. Et lorsqu'il brise, c'est pour quoi faire ? Refaire selon sa pensée et sa volonté. Pas comme moi je pense, pas comme moi je veux. Et ça, nous l'avons déjà vu la fois dernière, si vous vous souvenez, lorsque nous avions regardé d'un peu plus près le chapitre 7 de Jérémie, où là, Dieu avait déjà dénoncé l'hypocrisie de son peuple. En substance, il lui avait dit « Vous vous cachez derrière votre nom de croyant, vous vous cachez derrière le temple. » Vous vous cachez derrière un certain nombre de choses religieuses, mais en dehors, vous êtes et vous agissez comme des incroyants. Pire qu'eux-mêmes, nous dit le chapitre 7. Parce qu'il fallait voir ce que le peuple d'Israël faisait. Hein. C'était pire que des païens. Mais ils s'en cachaient. Et dans Jérémie 18, nous y sommes. Et Dieu va un petit peu plus loin encore. Il veut leur faire comprendre de nouvelles choses. Il leur dit, c'est pas vous qui me façonnez. Hein. C'est moi le potier. C'est pas vous qui me faites à votre convenance. C'est moi le potier et c'est vous l'argile. Et là, ça change tout. Tout est inversé. Et il leur dit en quelque sorte dans ce chapitre 18, vous voulez garder une forme religieuse bien faite, qui rassure. Et aujourd'hui c'est ça, hein, dans le monde religieux. Mais c'est moi le potier, et donc si je vois que le vase est déformé et non conforme à ce que je veux qu'il soit, alors... Je ne vais pas rester comme ça à le contempler. je vais le refaire, je vais le reprendre, je vais le refaçonner. C'est ce que nous avons lu ensemble à l'instant. Et ce message, je crois, mes amis, frères et sœurs, il est vraiment actuel. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, et peut-être vous pouvez vous interroger aussi, chacun peut s'interroger, et moi avec, hein, beaucoup de personnes qui ont gardé une certaine forme chrétienne, mais qui ne se laissent plus travailler par Dieu, qui ne se laissent plus reprendre, façonner par Dieu. C'est bouché là. On écoute, on entend, mais il n'y a rien qui rentre. Beaucoup de personnes viennent, écoutent, partagent même le langage de la foi. J'en connais même en dehors d'ici. Hein. Mais dans le fond, ne veulent pas être repris, corrigés, sanctifiés. Alors qu'ils ont dans la bouche les paroles d'un croyant. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à entendre sa voix. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage, parce que je trouve qu'il est vraiment parlant. Alors, j'aimerais qu'on considère ce texte partie par partie, si vous voulez bien. Et ça commence par le verset 2. Si vous êtes avec moi, Jérémie chapitre 18, ça commence par ce verset 2, qui dit « Lève-toi !» Et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Ah voilà, là, j'ai tenté à la maison de relire plusieurs fois ce passage, pour je l'ai bien en tête, mais qu'est-ce que j'aime ce verset. Parce que c'est comme s'il s'adressait à moi. Vous pouvez dire pareil, hein. En me donnant l'ordre donc de me lever, de quitter mon confort personnel et d'aller là où il veut me conduire. Même si je ne comprends pas tout, parce que lorsque le Seigneur m'ordonne quelque chose, je ne comprends pas toujours tout. Et même, il me demande de me lever et d'aller là où il veut me conduire, avant même de me révéler quelque chose d'important, parce qu'il lui dit, c'est seulement après que je vais te révéler ce que je veux te dire. Ça s'appelle l'obéissance, frères et sœurs. Même si quand Dieu me dit quelque chose, même si je ne comprends pas toujours tout à fond, à 100%, voire 200%, Dieu aime qu'on lui obéisse. Il y a plein de gens qui disent « Moi, je suis chrétien, mais je ne comprends pas tout sur le baptême. » Il faut que je comprenne exactement ce que ça veut dire avant de me faire baptiser. Non, ça c'est de la désobéissance. Parce que lorsqu'on obéit, il y a des choses que Dieu va pouvoir révéler derrière. Et c'est ce que nous dit ce passage. Les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent lorsque, dans l'obéissance, nous suivons le Seigneur. Il y a plein de choses qu'on comprend après, parce qu'on le comprend avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jérémie a fait. Il a quitté l'endroit où il était et il est descendu. Alors oui, je crois que le premier sens de ce mot « descendu » est certainement littéral et géographique, parce que Jérémie doit réellement descendre pour aller dans la maison du potier, sachant qu'on est à Jérusalem, et Jérusalem, vous savez, est bâtie sur les hauteurs. Et si Dieu lui dit de descendre, c'est que, certainement que la maison du potier se trouve en contrebas. Et donc, oui, il descend. Il doit descendre. Néanmoins, je le crois, il est légitime de penser qu'il y a un autre sens à ce mot « descendre ». Un sens plus spirituel. Parce que ce chapitre s'inscrit dans, tout un contexte spirituel. Et pas seulement matériel, physique. Jérémie doit accepter de descendre pour recevoir le message de Dieu. Parce qu'il vient après le message de Dieu. Et donc, dans ce mouvement du récit qui est ce chapitre 18, cette descente devient une image parlante pour Jérémie et doit l'être aussi pour chacun de nous ce matin, une image parlante de l'attitude d'humilité que je dois revêtir, nécessaire donc pour recevoir la parole de Dieu. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible de la recevoir. Et ainsi, être enseigné et façonné par le grand potier qui est notre Dieu, Seigneur des Seigneurs. C'est donc un appel fort, mes amis, à ne pas rester perché là où on se trouve. Dans son orgueil, dans son illusion, dans sa routine religieuse, son apparence chrétienne. Peut-être c'est votre cas ce matin, je ne vous connais pas tous. Mais de descendre de là où on se trouve pour se placer devant Dieu et recevoir de lui ce qu'il veut me dire. Est-ce que ce matin, vous êtes ce Jérémie-là ? Vous êtes prêt à vous lever et à descendre pour entendre Dieu vous parler. Et puis regardez maintenant en avance versets 3 et 4. Alors versets 3 et 4, ces versets nous disent, voilà, je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et donc Dieu conduit Jérémie là dans un endroit qui est concret et il va lui donner une leçon visuelle. Il va voir les choses pour lui enseigner une vérité par une scène de la vie réelle. Parce que Jérémie voit l'homme là le travailler sur son tour. Alors il voit ses mains, il voit cette matière souple qu'est l'argile, et il le voit travailler, prendre le temps de le faire. Mais malheureusement, le vase ne réussit pas. Parce que ce vase ne correspond pas à ce que le potier veut qu'il soit. Ça arrive, hein. Alors que fait le potier, nous dit le verset 4, si vous avez... les yeux sur ce passage. Est-ce que il dit « Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le garder comme ça parce que finalement, ça ressemble quand même à une sorte de vase. Et puis, même s'il ne correspond pas à ce que j'aurais voulu qu'il soit, je vais quand même le conserver. » Parce que ça prend du temps tout ça, et donc, mais pas du tout, c'est pas ce qu'il dit. Il dit non, et il va le reprendre du tout au tout. Il va le retravailler, et il va en faire un autre vase, un nouveau vase, tel qu'il trouva bon de le faire, nous dit la fin du verset 4. Et donc, les frères et sœurs, mes amis, je pense là que l'image est vraiment parlante. Ce potier ne va donc pas, j'essaie d'imaginer la scène, ce potier ne va donc pas jeter définitivement la matière, la jeter à la poubelle, mais il va la reprendre. Ça veut dire que Dieu ne reconnaît pas comme... irrécupérable, ce qui, à ses yeux, est complètement déformé s'agissant de son peuple, parce qu'il est question de Dieu. Il voit là la déformation du péché dans son peuple. Et pourtant, il continue le travail. Quelle patience le Seigneur a à notre égard. Est-ce qu'on s'en rend compte? Ça veut dire que lorsque Dieu reprend nos vies, ben oui, c'est pas le signe qu'il nous rejette. C'est le signe qu'il refuse de nous laisser dans un état qui ne correspond pas à sa pensée et à sa volonté. Et voilà que nous continuons au verset 5. Et là, Dieu révèle à Jérémie toute l'explication. Alors, j'ai déjà fauté parce que j'ai déjà donné quelques éléments. Mais voilà qu'à partir du verset 5 et même le verset 6, Dieu donne l'explication à Jérémie pour qu'il le retransmette ensuite au peuple. Et là, on est au cœur du passage. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Dans la main du potier. Ah ben c'est le titre du message. Dans la main du potier. Cette phrase, pour moi, c'est la plus importante. Parce qu'elle pose finalement une question la plus profonde qui soit, et cette question-là, je vous la pose aussi. Qui tient ma vie dans ses mains? Moi-même? Je tiens ma vie dans mes propres mains? Ou est-ce que ma vie est tenue dans les mains du grand potier, qui est notre Dieu? Pour ma vie, qui décide? Concernant ma vie, qui façonne? Concernant ma vie, qui a autorité? Qui a le dernier mot dans mes décisions, mes choix, mon parcours? Moi ou le grand potier qui veut me façonner à son image? Et à l'époque, le peuple de Juda, et c'est très actuel, vivait dans une contradiction vraiment profonde. Il se disait être le peuple de Dieu, et aujourd'hui on se dit aussi être les enfants du Seigneur. Tout en vivant dans l'idolâtrie, l'injustice, même le péché, comme les chapitres précédents en témoignent, et les chapitres qui suivent en témoignent aussi. Et Jérémie 18 nous dit, et c'est Dieu qui parle, voilà, ce peuple-là, c'est comme un vase manqué. Il est loupé, ce vase. La forme actuelle ne peut pas rester telle qu'elle. Il faut la reprendre. Il faut reprendre complètement l'ouvrage parce que c'est son ouvrage. Et Dieu dit, je vais le reprendre totalement, cet ouvrage. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas sûr. Hein? Vous avez vu comment se termine le verset 12? Vous êtes d'accord? Oui ou non? Bonne question. Parce que le problème commence toujours, et c'est la réflexion que je me suis faite, quand l'argile veut décider elle-même de sa forme. Est-ce possible, hein, ça? Quand nous voulons bien appartenir à Dieu, les amis, mais sans lui laisser le droit de me reprendre quand c'est nécessaire. On veut bien le salut en Jésus-Christ, comme ça a été clairement dit ce matin, mais bien des fois, on ne veut pas se laisser sanctifier par le Seigneur. Ça veut dire qu'on veut rester tel qu'on est. On veut bien être pardonné, mais on ne veut pas être transformé, corrigé. On veut bien Jésus comme sauveur, mais le voulons-nous comme notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Et pourtant, c'est ce qu'il est. Et alors, le potier a réfléchi. Et Dieu, reprenant la parole derrière, versets 7 à 10, parce qu'on avance dans ce passage. On en est au verset 7 à 10. Dieu va reprendre mot pour mot le programme de Jérémie chapitre 1. Il va dire soudain, et je vais faire des petits sauts volontaires pour qu'on saisisse l'essentiel. Et versets 7 à 10, Dieu dit « Soudain je parle d'arracher, d'abattre et de détruire. Et soudain je parle de bâtir et de planter. » Et donc, on retrouve exactement la même logique qu'avant. Ça veut dire que le texte de Jérémie 18 n'est pas un texte isolé des autres. Ça suit la même pensée, la même volonté de la part de Dieu. Et c'est une nouvelle illustration de la clé de lecture du livre qui est là. Et à chaque fois, dans tout le livre de Jérémie, Dieu va se répéter et s'adresser à son peuple sans cesse pour lui dire « Revenez à moi ». Dieu agit selon le même principe. Par exemple, j'ai noté ça dans Jérémie 3, il va mettre à nu l'adultère spirituel de la part de ses enfants. Et vous savez, l'adultère spirituel, c'est le fait de servir en réalité d'autres dieux dans la vie. D'autres dieux. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres dieux que servir le vrai Dieu. Il y a plein d'autres dieux qui prennent la place du Seigneur des Seigneurs. C'est très actuel. Et puis, il annonce le jugement du Nord dans les chapitres 4 à 6. Et puis au chapitre 7, on l'a vu ensemble, il renverse la fausse sécurité qu'avait placée le peuple dans le temple. Et ici, dans Jérémie 18, Dieu affirme maintenant qu'il est, que c'est son droit souverain parce qu'il est le potier de reprendre un peuple qui pour lui est défiguré pour le refaire totalement. Est-ce que j'en fais pas partie? Moi-même? C'est vraiment un texte qui appelle à réfléchir, à faire réfléchir chacun sur sa propre situation, mes amis. Le problème, c'est que on aime souvent un Dieu qui bâtit, mais on ne veut pas qu'il arrache, parce que arracher, ça fait mal. On veut bien qu'il restaure, mais on ne veut pas de repentance, parce que la repentance, ça humilie. On veut bien la bénédiction de Dieu, mais sans qu'il y ait de brisement intérieur. On veut bien la couronne finale qui est promise aux enfants de Dieu, sans la croix. C'est-à-dire, on veut la gloire sans le sacrifice. Ça ne marche pas. Et Dieu veut enlever ce qui est faux dans ma pensée, dans ma volonté, dans ma manière d'être, pour y placer le vrai, le véridique. Et ce qui est vrai pour le peuple d'Israël à l'époque où ça a été écrit, c'est vrai pour l'Église d'aujourd'hui comme la nôtre. Et c'est vrai aussi pour, je crois, une vie individuelle, chaque vie individuelle comme la vôtre. Et il y a quelque chose, finalement, de capital aussi, peut-être, à dire. Parce que le peuple de Dieu, et ça nous permet de mieux comprendre, peut-être aussi, le peuple de Dieu est lié à l'Éternel par alliance. Il a reçu la loi, il a reçu les prophètes, il a reçu le temple à Jérusalem. Tout ça, ça vient de Dieu. Mais spirituellement, la nation, en fait, se comporte, s'est comportée comme si elle s'appartenait à elle-même et non à Dieu. Vivant selon ses propres pensées, elle mélange religion avec rébellion. Elle garde les apparences, mais refuse finalement de se soumettre à Dieu. Et donc, le livre de Jérémie, et même le chapitre 18, là, si on continuait à lire ce chapitre, affirme quelque chose de capital. C'est que les promesses et les privilèges passés, comme avait pu les avoir le peuple d'Israël, ne dispensent jamais de l'obéissance présente. C'est pas parce qu'on a tout reçu en Jésus-Christ, frères et sœurs, que, il faut faire n'importe quoi dans la vie. Qu'on peut vivre n'importe comment. Et c'est pour ça que dans le chapitre 7, il avait pris l'exemple de Silo. Silo, c'est un lieu, un haut lieu d'adoration, avant même que Jérusalem ne le devienne par la suite. Et donc c'était un centre religieux majeur pour les enfants d'Israël. Ils se réunissaient là et ils adoraient Dieu. Pourtant, à un moment donné, Dieu a détruit Silo. C'est parti en ruine. Et on se demande pourquoi. Et d'ailleurs, les enfants d'Israël se sont même demandé pourquoi. Mais parce que la présence passée de Dieu ne donne pas la permission de pécher dans le présent. Et ça, c'est une vérité pour chacun de nous aujourd'hui. C'est pas parce qu'on se dit, voilà, je suis sauvé pour l'éternité, que ça me donne le droit de pécher, même volontairement, face au Dieu trois fois saint. Dieu dit à Judas, vous êtes entre mes mains. Si vous persévérez dans le mal, verset 10, alors je déciderai d'arracher, d'abattre, de détruire, comme il a détruit Silo. En revanche, si vous revenez à moi, c'est ça la parole d'espérance. Je vais refaire, je vais bâtir, je vais planter. Et là, franchement, le texte est vraiment important. Parce qu'il révèle quelque chose du fonctionnement de l'alliance de Dieu dans toute l'histoire. C'est que toutes les annonces du jugement doivent sonner dans nos oreilles comme un avertissement qui appelle à la repentance, qui appelle à revenir vers lui. Si je sais très bien que dans ma vie, je me suis éloigné, comme c'était le cas des enfants d'Israël à l'époque. Quand Dieu menace, en quelque sorte, il n'en prend pas plaisir, bien sûr. C'est parce qu'il veut ramener à lui ce qui s'est éloigné de lui. Et donc, cela appelle, les versets 7 à 10 appellent son peuple à une réponse en demandant un changement réel. Ça veut dire qu'il nous demande la même chose aujourd'hui. Si je vois que dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas, dans ma soumission à Dieu, mon obéissance, alors il m'appelle à revenir à lui. Et ensuite, verset 11, on est au verset 11, tout devient encore plus percutant. Parce que là, il dit, c'est un appel clair à revenir à lui. Revenez, dit-il. Réformez vos voies, réformez vos œuvres, ou redressez vos voies, revenez à moi, en fait. La vraie repentance, ça touche toute la vie de la personne. Ça touche nos choix, ça touche nos décisions, ça touche nos habitudes, ça touche nos priorités, notre conduite, notre engagement. Et il faut le dire, hein. Mais on peut être ému suite à l'écoute d'une prédication. Moi, je l'ai été plusieurs fois. Un message, mais sans se repentir. Parce que c'est une émotion du moment. On peut être troublé sans changer quoi que ce soit dans sa vie. On peut être convaincu un instant, puis retourner tout de suite au même état qu'avant. Parce qu'il n'y a pas de vraie repentance. Mais la vraie repentance biblique pour une personne, lorsque Dieu la touche, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit. C'est un retour réel à Dieu, un changement de direction total inspiré par le Saint-Esprit qui va le conduire à soumettre sa vie au Seigneur, à reconnaître ses erreurs, ses fautes, à demander pardon avec un sincère désir de revenir à lui. Et là, il y a cet appel solennel, donc revenez. Et verset 12, alors que cet appel a été lancé, voyez le résultat, voyez la réponse du peuple, verset 12. C'est en vain. Nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon le penchant de notre mauvais cœur. C'est la phrase terrible que je ne voulais pas prononcer. Mais il faut bien. Là, ce n'est pas seulement une réponse liée à de l'ignorance hein, de la part du peuple. C'est une volonté arrêtée de résister. De résister. Je résiste à l'appel de Dieu. C'est comme si le peuple disait, on a entendu, Seigneur, tu m'as parlé, mais je ne changerai pas d'un iota. Je préfère mon chemin, je préfère mes propres voies, ma manière de penser à la tienne, Seigneur. Là, je vais continuer comme avant. Est-ce que c'est ça pour vous? C'est terrible, hein? Parce que nous aurons tous à comparaître devant Dieu à un moment ou à un autre. Et le péché, vous savez, c'est pas seulement, contrairement à ce qu'on peut penser, faire le mal, hein? Oui, faire le mal, c'est péché, mais pas que. Le péché, c'est aussi préférer sa pensée à celle de Dieu. Son désir, sa volonté à la place de Dieu. C'est vouloir garder la direction de sa vie, refuser la seigneurie de Dieu pour soi-même. Et ça, c'est terrible, parce que ça me ferait répondre à Dieu comme le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a répondu. Et là, on est au cœur du péché du peuple. Et là où il y a péché, frères et sœurs, il n'y a pas de bénédiction possible. C'est pourquoi Dieu appelle à revenir. Donc à chacun de regarder où il en est devant le Seigneur. Parce que Jérémie, là, parle à des gens religieux, comme il en existe beaucoup aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on prenne ce passage du Nouveau Testament, comme je le disais au tout début. Parce que l'apôtre Paul connaissait bien l'Ancien Testament et parfaitement le livre de Jérémie. Et j'aimerais qu'on lise 2 Timothée chapitre 2. Regardez avec moi. Paul reprend ici, dans 2 Timothée chapitre 2, la manière logique, spirituelle du livre de Jérémie. 2 Timothée chapitre 2. Et je lirai les versets 20 et 21. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ah, nous avons là l'image du potier, n'est-ce pas? Que l'apôtre Paul reprend. Est-ce que je suis un croyant religieux ou est-ce que je suis un vase utile au Seigneur? Est-ce que je suis dans ma relation à Dieu et dans ma relation les uns avec les autres? Est-ce que je suis utile dans la prière? Utile dans le service? Utile dans l'amour fraternel, dans le témoignage, dans l'obéissance, dans la disponibilité concrète pour son œuvre, sachant que tout cela se fait finalement dans et à travers l'Église locale. Et on ne peut pas véritablement le faire si on n'y est pas intégré. Est-ce qu'on est intégré à l'Église locale pour participer à l'œuvre de Dieu? Parce que c'est là qu'il favorise l'obéissance. Alors, il faut que je termine avec ça, parce qu'il faut aller au cœur de l'Évangile. Et si je devais m'arrêter sur l'image du potier, peut-être que avec ce vase déformé, peut-être on pourrait repartir d'ici, de cette salle accablée. Mais ça, le Seigneur ne le veut pas. Parce que le dessein de Dieu n'est pas de briser pour ensuite abandonner. Non, il brise, certes, mais pour refaire. Il arrache pour bâtir, il abat pour relever. Et cette œuvre-là, il l'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Et ça a été dit ce matin. Et j'aimerais relire ce passage, ne cherchez pas, ce que Paul déclare en Galates, chapitre 2, verset 20. Où là, Dieu ne se contente pas d'améliorer superficiellement l'homme pécheur qu'il veut sauver, qu'il veut sanctifier. Il ne pose pas un vernis religieux pour cacher la misère d'une vie qui resterait inchangée. Non, il met l'ancien homme sous le jugement pour faire naître une vie nouvelle, un nouvel homme. Et c'est ce que Galates chapitre 2 verset 20 nous dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et on a chanté ça tout à l'heure. Non par moi, mais par Christ en moi. C'est exactement ce que nous dit ce verset. C'est l'œuvre du salut. En Jésus-Christ, Dieu fait tout tomber. L'orgueil, la justice propre, l'illusion religieuse. Et en même temps, il fait naître en nous une existence nouvelle, gouvernée non plus par le moi, mais par le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Alors si ce matin, quelqu'un se dit « ma vie, elle est trop déformée, j'ai trop joué avec la religion, mon cœur est endouci, j'ai trop résisté », qu'il entende cette bonne nouvelle. En Jésus-Christ, Dieu relève, il donne une vie nouvelle à celui qui vient à lui avec repentance et foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ensuite dans Romains chapitre 12 verset 1, parce que la foi n'est pas donnée pour que nous gardions simplement une identité chrétienne extérieure. La foi nous est donnée par la grâce de Dieu pour que nous vivions réellement pour Dieu. Et là le passage nous dit: je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Ah, c'est le potier. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas pour être un vase inutile. Que Dieu des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. C'est le langage du potier, c'est le langage de Jérémie 18. Dieu nous façonne, il nous sanctifie, non pour une religion de façade, mais pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors je conclue. vous qui appartenez déjà au Seigneur Jésus-Christ. Alors je connais beaucoup d'entre vous. Ne résistez plus à sa main, la main du potier, qui veut vous façonner comme il le veut. Il veut vous faire devenir de vous quelque chose, une œuvre d'art. Ne gardez pas une foi de façade. Ne vous contentez pas d'une religion d'habitude, mais, comme le dit Romains 12, offrez-vous à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Marchez dans l'obéissance. Entrez avec joie dans la volonté du Seigneur. Faites la démarche, si ce n'est pas le cas, d'intégrer une église locale, en tout cas celle que vous fréquentez. Parce qu'il n'y a pas de plus belle vie, plus utile, plus féconde que une vie, la vie d'un croyant qui la remet entre les mains du grand potier. Et puis, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, peut-être il y en a parmi nous. Essayez pas de vous refaire vous-même. L'argile va essayer de se refaire elle-même. Non. Essayez pas de couvrir votre cœur par une apparence religieuse, un masque. Mais venez à Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que lui seul peut pardonner les péchés. Lui seul peut venir à bout de votre misère, votre fatigue, votre vide spirituel. Lui seul peut pardonner, lui seul peut purifier. Lui seul peut donner un cœur nouveau. Lui seul peut faire de vous une nouvelle créature pour la gloire de Dieu. Alors, restez pas comme ça, hein. Venez en parler à l'un d'entre nous, si vous avez à cœur de le faire. Donc, mes amis, que le Seigneur nous accorde à tous saints, sans exception, à ne pas dire « nous suivrons nos pensées », mais de répondre de tout notre cœur « Seigneur, me voici, fais de moi, dans ta main, le grand potier, ce que tu veux pour ta gloire. Je suis dans la main du potier.